4. J'appelais Bill Harriman et l'informais qu'il pouvait me photographier avec radar s'il le souhaitait toujours. Je lui indiquais les conditions de M. Bowditch. Il était d'accord.
« C'est une sorte d'ermite, hein ?»
dit-il.
« Je ne trouve rien sur lui dans nos dossiers, ni dans The Beacon. »
« Je ne sais pas, samedi matin, ça vous va ?» Ça lui allait et on convint de se retrouver à 10h. Je remontais sur mon vélo et rentrais à la maison en pédalant tranquillement et en réfléchissant à toute vitesse. À radar, pour commencer. À la laisse s'accrocher dans le vestibule. Jamais je n'avais pénétré aussi loin dans la maison. Réflexion faite, il n'y avait pas de médaille accrochée à son collier. Ce qui voulait certainement dire, pas de carnet de vaccination prouvant qu'elle n'avait pas la rage. Radar était-elle déjà allée chez le véto, d'ailleurs ? J'en doutais. Monsieur Bowditch se faisait livrer ses provisions. Un moyen très chic de se faire plaisir, et Tiller & Sons était assurément une boutique très chic où les gens très chics qui avaient les moyens se fournissaient. Ce qui m'amenait à me demander, comme l'avait fait papa, de quelle manière M. Bowditch avait gagné sa vie avant de prendre sa retraite. Il s'exprimait de manière plutôt élégante, presque comme un professeur, mais à mon avis, les profs à la retraite n'avaient pas les moyens de fréquenter une épicerie qui se targuait de posséder une cave à vin en sous-sol. Un vieux téléviseur, pas d'ordinateur, j'étais prêt à le parier, et pas de portable. Pas de voiture non plus. Je connaissais son deuxième prénom, mais pas son âge. De retour à la maison, j'appelais Tiller & Sons pour fixer l'heure de livraison à 15h le lundi. J'envisageais d'aller faire mes devoirs chez M. Bowditch quand Andy Chen frappa à la porte de derrière, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps. Gamin, Andy, Bertie Bird et moi, on était inséparables. On s'était même surnommés les trois mousquetaires. Mais les parents de Bertie étaient partis vivre à Dearborn, c'était sans doute une bonne chose pour moi, et Andy était un cerveau qui suivait un tas de cours de préparation à la fac, en physique notamment, dans une annexe locale de l'Université de l'Illinois. C'était aussi un sportif, évidemment, qui excellait dans deux sports que je ne pratiquais pas. Le premier était le tennis, le second, le basket, sous les ordres du coach Harkness, et je devinais la raison de sa visite. « Le coach dit que tu devrais revenir pour jouer au baseball !» annonça Andy, après avoir ouvert notre frigo à la recherche d'un truc à grignoter. Il jeta son dévolu sur un reste de poulet Kung Pao. « Il dit que tu as laissé tomber l'équipe !» « Oh oh, c'est parti pour la séance de culpabilisation. Sans moi, désolé. »« Il dit que tu ne seras pas obligé de t'excuser. » »« Je n'en avais pas l'intention. » »« Il devient cinglé. Tu sais comment il m'appelle ?» « Le péril jaune !» du style « Allez, péril jaune, bloque-moi ce gros salopard !»« Tu te laisses faire ?» J'étais à la fois curieux et horrifié. Dans sa bouche, c'est un compliment, et ça me fait marrer. De toute façon, encore 2 saisons et bye-bye, Hillview. Je jouerai pour Hofstra, division 1, j'arrive. Une bourse complète, mec. Fini le péril jaune. C'est vrai que t'as sauvé la vie de ce vieux bonhomme ? C'est ce qu'on raconte au bahut. C'est sa chienne qui l'a sauvé. Moi, j'ai juste appelé les secours. Le kleps ne t'a pas sauté à la gorge ? Non, elle est adorable. Et elle est vieille. La fois où moi je l'ai vue, elle n'était pas vieille. Ce jour-là, elle était assoiffée de sang. Hé, c'est flippant chez lui ? Il y a des animaux empaillés ? Une horloge kit-kat qui te suit du regard ? Une tronçonneuse dans la cave ? Des gens disent que ça pourrait être un serial killer. Non, c'est pas un serial killer. Et la maison ne fait pas flipper. Je ne mentais pas. C'était le cabanon qui faisait flipper. Ces bruits étranges de débandade. Et Radar les trouvait flippants, elle aussi. « Bon, » dit Andy, « je t'ai transmis le message. T'as rien d'autre à bouffer ? Des cookies ?»« Non. » Les biscuits étaient chez M. Bowditch. Des guimauves enrobées de chocolat et des sablés aux noix de pécan qui venaient sûrement de chez Tiller & Sons.
« Ok. À plus, mec !»
« À plus, péril jaune !» On se regarda et on éclata de rire. L'espace d'un court instant, ce fut comme si on avait de nouveau 11 ans. 5. Le samedi, donc, je me fis photographier avec radar. Une laisse était effectivement accrochée dans le vestibule à côté d'un manteau suspendu au-dessus d'une paire de caoutchouc. Un instant, j'envisageais de fouiller dans les poches, simple curiosité, vous voyez. mais je m'interdis de jouer les fouineurs. Un collier de rechange était fixé à la laisse, sans médaille. Aux yeux de la municipalité, le chien de M. Boditch échappait au... au radar. On marcha jusqu'à la clôture de devant et on attendit Bill Harriman. Il arriva pile à l'heure, à bord d'une vieille Mustang cabossée. On aurait dit qu'il sortait tout juste de la fac. Radar grogna un peu pour la forme quand il descendit de voiture. Je la rassurai en disant que tout allait bien et elle se calma, se contentant de passer sa truffe à travers les barreaux rouillés du portillon pour renifler la jambe de pantalon du journaliste. Elle se remit à grogner quand il tendit le bras par-dessus pour me serrer la main.
« Elle est très protectrice !»
souligna-t-il. En effet. Je m'attendais à le voir sortir un gros appareil photo, influencé sans doute par un vieux film de TCM sur les reporters, mais il nous photographia avec son téléphone. Après avoir pris deux ou trois photos, il voulut savoir si la chienne pouvait s'asseoir.
« Tu pourrais t'agenouiller à côté d'elle, ça serait chouette, le gamin et sa chienne !»«
Elle n'est pas à moi, » répondis-je. « Mais peut-être que si, en fait, pour le moment du moins. » Je demandai à Radar de s'asseoir, sans savoir si elle allait obéir, et elle s'assit aussitôt, comme si elle attendait cet ordre. Je m'accroupis à côté d'elle. Je remarquai que Madame Richland était sortie de chez elle pour nous observer, la main en visière.
« Passe ton bras autour d'elle !»
dit Harriman. Je m'exécutai. Radar me lécha la joue, ce qui me fit rire. Et c'est cette photo qui parut dans le numéro du Sun et dans plein d'autres journaux.
« T'es comment à l'intérieur ?»
demanda Harriman en montrant la maison. Je haussai les épaules. « Comme n'importe quelle maison, j'imagine. Normal. » Même si, évidemment, je n'en savais rien, n'ayant vu que le musée des vieux papiers, la cuisine, le salon et le vestibule.
Rien d'extraordinaire, alors. Parce que, vu de dehors, elle fout la trouille.
Je faillis préciser que la télé datait d'une autre époque, d'avant le câble, sans même parler du streaming, mais je me retins. Je compris que Harriman était passé du rôle de photographe à celui d'intervieweur. De manière pas très subtile, disons-le, car il débutait dans le métier.
C'est une maison comme les autres. Il faut que j'y aille.
Tu vas t'occuper de cette chienne jusqu'à ce que M. Boditch sorte de l'hôpital ?
Cette fois, c'est moi qui tendis la main par-dessus le portillon. Radar s'abstint d'aboyer, mais elle restait aux aguets.
J'espère que les photos sont réussies. Viens, Radar.
Je me dirigeai vers la maison. Lorsque je tournai la tête, je vis Harriman traverser la rue pour aller interroger Madame Richland. Je ne pouvais pas l'en empêcher. Alors je contournai la maison, suivi de près par Radar. Je remarquai qu'elle boitait après avoir marché un peu. Je rangeai l'échelle sous la véranda, où il y avait déjà une pelle à neige et une longue cisaille de jardin qui semblait aussi rouillée que la serrure du portillon et était sans doute aussi peu maniable. Radar me regardait faire, arrêté au milieu des marches. Je trouvais ça adorable et je pris une autre photo. Je devenais un peu gaga, je l'avouais sans honte. Il y avait des produits d'entretien sous l'évier et une pile de sacs de course en papier, bien rangés. La plupart portaient le logo de chez Tiller. Je dénichais également des gants en caoutchouc. Je les enfilais et emportais un des sacs pour partir à la pêche au caca. Elle fut fructueuse. Le dimanche, je remis sa laisse à Radar et l'emmenai se promener jusque chez nous, plus bas sur la colline. Au début, elle marcha lentement à cause de son arthrite des hanches, mais aussi parce qu'elle n'avait pas l'habitude de s'aventurer loin de sa maison, de toute évidence. Elle ne cessait de lever la tête vers moi pour être rassurée, ce que je trouvais émouvant. Mais au bout d'un moment, elle prit de l'assurance et commença à s'arrêter pour renifler les poteaux téléphoniques et s'accroupir ici et là afin que les autres chiens du coin sachent que Radar Boditch était passé par là. Papa était à la maison. Tout d'abord, Radar recula devant lui en grognant, mais quand il lui tendit la main, elle s'approcha juste assez pour la renifler. Une demi-tranche de saucisse scella leur entente. On resta une heure environ. Papa m'interrogea sur ma séance photo et rit quand je lui racontais comment Harriman avait tenté de me questionner au sujet de la maison et comment je l'avais rembarré.
« S'il continue dans le journalisme, dit-il, il apprendra. Pour l'instant, il fait ses armes au Weekly Sun. »
Radar dormait près du canapé dans lequel papa s'évanouissait autrefois, ivre mort. Il se pencha pour la caresser.
Je parie qu'elle débordait d'énergie dans sa jeunesse.
Je songeais à ce monstre terrifiant qu'Andy disait avoir rencontré 4 ou 5 ans plus tôt, et j'acquiesçais.
Tu devrais regarder si Monsieur Bodich n'a pas des médicaments pour son arthrite. Il faudrait lui donner quelque chose contre les vers du cœur.
Je regarderai. Quand je raccrochais la laisse à son collier, elle dressa la tête. On ferait bien de rentrer.
Tu ne veux pas la laisser ici pour la journée? Elle a l'air à son aise.
Non, je préfère la ramener. Si mon père me demandait pourquoi, je lui dirais la vérité. Je pensais que Howard Bodich ne serait pas content. Il ne posa pas la question.
Ok. Tu veux que je vous ramène en voiture?
Non, pas la peine. Ça devrait aller si on marche lentement. J'avais raison. En remontant la colline, Radar parut heureuse de renifler une herbe autre que la sienne. 6. Le lundi après-midi, une petite camionnette verte portant sur le côté l'inscription « Tiller & Sons » en lettres dorées, rien que ça, s'arrêta devant la maison. Le conducteur me demanda où était M. Bodich. Je lui expliquai la situation, il me passa les sacs de course par-dessus le portillon comme si c'était une habitude, et j'en déduisis que ça l'était. Je notai le montant de la facture sur le chèque en blanc que m'avait fait papa, j'étais horrifié à l'idée de claquer 105 dollars pour 3 sacs de course, et le lui tendis. Il y avait des côtelettes d'agneau et du faux filet que je rangeais dans le congélateur. Je n'avais pas l'intention de manger ces provisions, à l'exception des cookies, mais je ne voulais pas non plus qu'elles se gâtent. Cela étant fait, je descendis à la cave en prenant soin de refermer la porte derrière moi pour que Radar n'essaie pas de me suivre. Humide et poussiéreuse, elle n'avait rien de l'antre d'un serial killer. On avait plutôt l'impression que personne n'y avait mis les pieds depuis très longtemps. Elle était éclairée par des néons installés au plafond. L'un d'eux, à moitié grillé, clignotait faiblement. Le sol était en béton brut. Des outils étaient accrochés au mur, parmi lesquels la fameuse faux, qui ressemblait à celle que brandissait la mort dans les dessins animés. Au centre, un établi était recouvert d'un drap. Je le soulevai pour jeter un coup d'œil dessous et découvris un puzzle 1 milliard de pièces au moins. Autant que je pouvais en juger, il n'y avait pas de boîte pour servir de modèle. Il représentait une prairie de montagne avec les rocheuses en toile de fond. Une chaise pliante était posée à une extrémité de l'établi, là où la plupart des pièces restantes étaient éparpillées. La poussière qui recouvrait l'assise indiquait que M. Bodich ne s'était pas attaqué à son puzzle depuis un certain temps. Peut-être avait-il renoncé? Et je pouvais le comprendre, car j'avais l'impression qu'il ne restait que des pièces bleu ciel à assembler, sans un seul nuage pour rompre la monotonie. Peut-être que je m'attarde sur ces détails plus qu'il ne le mérite. Mais peut-être pas. Il y avait là quelque chose de triste. Sur le coup, je n'aurais pas su expliquer la cause de cette tristesse, mais maintenant que j'ai vieilli, je crois en être capable. C'était lié au puzzle, mais aussi au vieux téléviseur, au musée des vieux papiers. C'était lié au passe-temps solitaire d'un vieil homme. Et la poussière, sur la chaise pliante, sur les livres et les magazines, suggérait que même eux se réduisaient peu à peu. Dans cette cave, seules 2 choses semblaient utilisées régulièrement, le lave-linge et le sèche-linge. Je remis le drap sur le puzzle et inspectai un placard installé entre la chaudière et le chauffe-eau. C'était un vieux meuble avec un tas de tiroirs. Dans le premier, je trouvais des vis. Dans le deuxième, des pinces et des clés à molette. Dans un troisième, des liasses de tickets de caisse retenues par des élastiques, et dans le quatrième, des burins et ce qui devait être une pierre à aiguiser. Je la fourrai dans ma poche, pris la faux et remontai. Radar voulut me sauter dessus, mais je l'obligeai à reculer pour ne pas risquer de la blesser avec la lame. On ressortit dans le jardin, où j'étais certain d'avoir 4 barres de réseau sur mon téléphone. Je m'assis sur les marches et Radar s'assit à côté de moi. J'ouvris Safari, tapait « affûtage avec une pierre à aiguiser », visionnait 2 tutos et me mis au travail. Très vite, j'obtins une faux à la lame tranchante. Je la pris en photo pour la montrer à M. Bodich et pédalai jusqu'à l'hôpital, où je le trouvais endormi. Je fis le trajet en sens inverse, dans la lumière déclinante de la fin d'après-midi, et nourris radar. Le baseball me manquait un peu, enfin, peut-être plus qu'un peu.